L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, 9e saison de l'EM. Ce lundi, c'est Mémoire. Mémoire en documents et en objets. Alors que dans notre monde tout numérique, on se demande ce que deviendra la mémoire de l'humanité dans un siècle ou deux. Pour le passé, on n'a pas ce problème. On a plutôt abondance, voire trop plein de documents ou d'objets. On a organisé leur classement, leur conservation avec des services d'archives, des archives municipales et des archives départementales. Ce sont elles qui nous intéressent aujourd'hui. Les archives départementales du Finistère qui sont représentées par le directeur Bruno Corr et la médiatrice Linda Péton. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les archives départementales? Déjà le bâtiment physiquement, est-ce que c'est grand?
Oui, c'est grand, bien entendu. Il faut de la place, même si on fait beaucoup de tri et on élimine beaucoup. Je pense que c'est une fonction importante pour les services d'archives, puisqu'on ne conserve au bout du compte que très peu en volume. Nous, on calcule en linéaire. Hein. Mais on considère qu'au bout du compte, 5 à 10% à peine des documents seront conservés pour l'histoire.
Et c'est pas mal déjà.
C'est déjà pas mal. La tendance est d'ailleurs de réduire ces volumes pour des raisons... de qualité de la recherche scientifique, on est très prudent, mais on peut encore aller vers un peu mieux, ça veut dire un peu moins. C'est-à-dire être plus qualitatif dans la sélection et peut-être moins en volume. Et c'est ce que les services d'archives, qui sont des services des conseils départementaux, hein, les archives départementales dans le Finistère, c'est un service du conseil départemental. Et l'équipe donc se consacre effectivement à ce travail de volume dont vous venez de parler, dans un bâtiment à Quimper, qui est à la cité administrative, qui est une architecture des années 90. Bâtiment d'apparence solide, avec des beaux piliers en pierre, et puis des étages avec ce qu'on appelle des magasins où on conserve les documents d'archives. On arrondit, on est aux environs de 30 km d'archives. Les plus anciennes remontent au 11e, 12e siècle, mais ça c'est très très rare. On commence vraiment à avoir une production en volume à partir du 16e siècle.
Et vous avez une seule implantation à Quimper, c'est ça? Vous n'avez pas d'autres, sous-implantations ou annexes ailleurs dans le Finistère?
Alors, on a des annexes, mais pas de plein exercice. Ce sont des annexes uniquement dédiées à la conservation. Les autres fonctions, c'est-à-dire le travail des agents, le tri dont je parlais tout à l'heure, la communication se fait aux archives départementales à Quimper, à la cité administrative, puisque c'est là que se trouve la salle de lecture où on a accès aux documents. Et bien évidemment, je vais parler aussi du site internet, qui est un autre bâtiment, d'une certaine manière, qui donne accès aux instruments de recherche, en grande majorité numérique aujourd'hui, et aux images des documents que nous numérisons régulièrement pour les mettre en ligne.
Oui, parce que de toute façon, c'est aussi un bâtiment qui accueille le public, puisqu'il y a des expos, on va en parler, il y a une saison, c'est ça. Enfin voilà, il faut que ça soit bien identifié, j'imagine, cet endroit.
Oui, alors on vient aux archives si on a vraiment besoin. Et ça, c'est pour la recherche scientifique, administrative, etc. Et on y vient parce qu'on en a envie. Et pour en avoir envie, il faut effectivement avoir une programmation culturelle digne de ce nom. Et ce que le département nous demande, c'est effectivement de mettre les archives à travers la médiation, l'action culturelle et éducative, à la portée de tous. Et la programmation culturelle qui va de septembre à juin chaque année, elle permet effectivement à plusieurs types de publics de venir aux archives ou de traverser les archives lorsque nous allons vers eux, puisque nous nous déplaçons également, notamment dans les établissements d'enseignement avec qui nous travaillons dans le cadre, par exemple, du parcours mémoriel.
On va en reparler de toute façon avec Linda, mais je voulais continuer un peu sur ce que font les archives départementales. Donc on a vu un peu se dessiner quatre ou cinq peut-être d'ailleurs missions principales, c'est-à-dire la collecte et le tri. Vous m'arrêtez, hein. La conservation, le classement, et la valorisation. En gros, on pourrait dire que c'est les quatre piliers, c'est ça ?
Alors, il y en a un autre. Il y a la collecte, vous en avez parlé. Il s'agit de constituer un patrimoine pour permettre à la recherche scientifique, aux différents usagers de travailler. Le classement, c'est-à-dire une fois qu'on reçoit les archives, il faut bien les mettre en ordre et faire des instruments de recherche pour rendre tout ça accessible. Il y a également la conservation, qui est extrêmement importante. La conservation physique des documents, mais aussi aujourd'hui des données numériques. Ça, c'est extrêmement important.
On pourrait y revenir,
Il y a la communication. La communication, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la salle de lecture, mais c'est aussi le site internet. Et enfin, vous l'avez évoqué, la valorisation, c'est-à-dire rendre les archives accessibles à un plus grand nombre, pour ceux qui n'ont pas nécessairement besoin de venir aux archives, mais qui, en tant qu'usagers, en tant que citoyens, ont le droit d'accéder aux archives. Et ce droit, on doit trouver le moyen d'y répondre sans parfois que ce droit soit volontairement exercé par les agents. Il faut aller vers eux.
Oui, mais ça aussi, ça fait partie. C'est intéressant. Sur la collecte et le tri, justement, donc, comment est-ce que vous décidez que vous allez réceptionner un document ? Enfin, déjà, par rapport au service d'archives municipales qui existe de ci, de là, comment ça se passe ?
Alors, les archives publiques, celles qui sont produites par les services et les établissements d'une commune ou d'un département, sont obligatoirement versées. Je parle là de la partie historique, obligatoirement versée dans le service d'archives compétent, c'est-à-dire les archives communales aux archives communales, les archives de la ville, et les archives créées par les services ou les établissements du département aux archives départementales.
Et là, vous gardez tout ?
Et on ne garde pas tout.
Ah oui.
Voilà. Alors, on a régulièrement, tous les jours, on reçoit des demandes d'autorisation d'élimination. Je parlais tout à l'heure des 5%, 5 à 10% que l'on garde. Donc, notre responsabilité, elle est importante à ce moment-là, puisque au-delà des instructions que l'on peut avoir, tout ça est très organisé avec le ministère de la Culture, etc., pour produire des guides, des référentiels de conservation, on doit nous nécessairement, et on a pour ça une relative liberté dans les départements, on doit adapter tous ces critères à l'histoire du département, de son évolution administrative. Tout ne se passe jamais vraiment comme prévu, bien évidemment. Il y a des tas de circonstances qui peuvent être liées à la manière d'un chef de service d'organiser sa documentation archivistique. Ça peut être lié à des événements historiques, notamment la guerre, par exemple. Lorsque des documents d'archives ont disparu du fait de l'homme, du fait d'une guerre, d'un bombardement, c'est le cas à Brest, par exemple, lors de la dernière guerre, il nous faut bien veiller à ne pas éliminer ce qui aurait pu être éliminable, mais peut contenir des éléments que l'on aurait trouvés dans les archives qui ont disparu.
Qui compenseraient, en fait.
Qui compenseraient, voilà. Et ça, c'est tout notre travail. Et puis, pour cela, il faut avoir une bonne maîtrise, la meilleure connaissance possible de l'histoire des archives dans le département, donc de l'histoire du département.
Oui, ça doit être cornélien, quand même, parfois, les choix.
Alors, ça l'est pas. Il faut quand même être relativement sûr de soi. C'est un métier.
Ah oui.
Voilà. Et à partir de là, ça n'est probablement pas une science exacte. Cornélien, oui et non, ce qui est probablement le plus délicat, parfois, c'est de convaincre ceux qui ont produit les archives de nous les verser. Là, ça peut devenir cornélien parce que les liens avec les services qui sont tenus par la loi de verser la partie historique aux archives départementales ne sont pas réguliers. Les personnels changent, les dispositifs que l'on met en place évoluent, sont oubliés, les moyens ne permettent pas toujours de tout faire. Et donc il faut qu'on soit toujours en veille, sur le terrain, chez les producteurs, autant que faire se peut, sachant qu'il y a des milliers de producteurs, un notaire, un producteur, une commune pour les communes de moins de 2000 habitants pour ce qui nous concerne, un producteur, un hôpital, un producteur, un tribunal, un producteur, etc., un parc naturel d'Armorique, un producteur, avec dans chaque producteur des unités, chacun travaillant ses propres archives.
Et des documents, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a du mobilier, notamment via le musée de l'école rurale de Trégarvan, enfin des choses comme ça, alors, des objets.
Les objets, les archives sont des documents de gestion. Il peut y avoir des objets associés à ces documents de gestion, par exemple une maquette, parce qu'il y a eu un projet de bâtiment et que dans l'appel d'offres, l'architecte a remis aussi une maquette. Alors là, on va parler d'une archive en trois dimensions, etc. Par contre, les objets, on va parler des encriers, on va parler des armoires, des bureaux, voilà. Ça ne relève pas dans le code du patrimoine de la section archives, excusez-moi d'être un peu...
Ah non, très bien.
Ça relève d'autres dynamiques, et là, c'est les musées qui prennent le relais. Ce qui est important, c'est de pouvoir bien faire le lien, de manière à ce que les usagers puissent avoir accès à l'ensemble des sources patrimoniales concernant, vous évoquiez là... Enfin, non, c'est moi qui ai évoqué une école, concernant une école, par exemple. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire, nous, en renvoyant sur notre site internet à l'existence d'un centre d'information, documentation ou à un musée, comme celui que vous évoquiez.
Et donc, de même que le centre départemental archéologique du Fou, qui dépend aussi du conseil départemental à côté, là, ça ne dépend pas directement de vous, mais vous êtes en lien, j'imagine, avec eux, quoi. Enfin...
Alors, ils produisent des archives et effectivement, ils ont des obligations. Alors, en l'occurrence, les choses ont beaucoup évolué. L'organisation des institutions dans la région, notamment, et les archives... Alors, il y a plusieurs choses en archéologie, je vais résumer, mais en fait, ça sera conservé désormais au niveau régional.
Ah oui, voilà. Parce qu'ils ont quand même un dépôt, donc c'est pour ça que... Voilà, mais... C'est pas géré par vous, quoi, le dépôt archéologique.
Ah non.
Non, d'accord. C'était la question. Alors, dans les cinq missions que les archives départementales que vous m'avez citées, comment ça se répartit en temps ? Enfin, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ? Et par combien d'agents, d'ailleurs, aussi ? Parce que vous ne nous avez pas dit combien il y avait d'agents.
Alors, j'ai évoqué tout à l'heure un chiffre, celui de 30 km. On retiendra qu'il y a un agent par kilomètre, donc 30 agents qui sont mis à disposition. Alors, 27 par le conseil départemental et 3 par l'État, puisque l'État est partie prenante dans le fonctionnement des services départementaux d'archives à travers la mise à disposition de 3 agents de catégorie A.
Et donc, la répartition des tâches, enfin...
Alors,
l'émission.
C'est extrêmement délicat de vous répondre, je vais essayer de le faire, mais avant, préciser quand même que dans notre service d'archives, on n'est jamais monotâche. C'est extrêmement compliqué. On va collecter les archives et ensuite on va les traiter au sein de la même unité. Donc voilà, les tâches se multiplient comme ça. On essaye d'avoir un continuum dans le traitement.
Même ce qui est très technique, par exemple, quand il y a vraiment des gestes techniques pour conserver un document. Ouais. Alors,
voilà, j'y viens. Vous avez par exemple un atelier de restauration où on va avoir, je dirais, l'équivalent de 2 agents et demi qui vont effectivement restaurer des parchemins, des sceaux, voilà, préparer la numérisation en faisant des petites réparations. Nous avons un atelier de numérisation et là, plusieurs personnes passent, hein, c'est ce que je disais, on tourne un petit peu, on a un planning, mais on peut considérer qu'il y a probablement entre 3 et 4 agents qui vont œuvrer à la numérisation. 2024, par exemple, l'équipe a numérisé pratiquement 250 000 vues, 250 000 pages. Parce qu'aujourd'hui, sans la numérisation, les archives ne seront pas consultées comme on le voudrait. Et ça fait partie des enjeux du conseil départemental de numériser les archives pour, effectivement, les rendre accessibles à tous. Après, pour ce qui est de la collecte, c'est essentiellement un secteur des archives contemporaines et de l'archivage électronique et des archives communales et intercommunales. C'est un service qui est, lui, comme l'action culturelle, énormément tourné vers l'extérieur, qui va chez le producteur, qui va vers les producteurs ou répond aux producteurs lorsque ceux-ci nous interrogent et nous demandent soit de verser des archives, soit d'éliminer des archives. Et là, nous avons une équipe donc, qui traite, comme je disais, aussi l'archivage électronique, pas uniquement le papier. Et nous avons une équipe qui est de 6 personnes.
Est-ce que vous avez des archives qui ne sont désormais que numériques ?
Oui, on fait ce choix, et de plus en plus, d'assumer la transition numérique et de privilégier la collecte du numérique. Par exemple, le conseil départemental, désormais, ne conserve les délibérations que sous forme numérique.
Oui, il n'existe pas de version papier, en fait.
Il existe des versions papier,
ah, quand même.
Mais
ah,
nous,
ouais.
Nous décidons de ne prendre que le numérique. Pas le numérique et le papier, Ce serait extrêmement, enfin, ce serait un message qui manquerait de confiance. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance au numérique qui présente comme le papier des risques, bien évidemment. Et puis, on ne peut pas se permettre de tout conserver en double. Il faut donc une administration numérique de confiance pour, et nous sommes parti avec la DSI et avec toutes les organisations qui...
C'est la direction de la sécurité sur services informatiques,
oui, ça, DSI, direction des systèmes d'information. C'est extrêmement important de, voilà, de mettre en œuvre cette transition. Et on considère d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de collecte papier, elle continuera avec le numérique de la même manière, adaptée bien évidemment, mais on peut considérer, pour le conseil départemental qui s'est engagé dans cette voie, que la numérisation permettra de finir la collecte du papier, je parle des services du département, probablement d'ici 10 à 15 ans.
Et ça sera, selon vous, aussi sûr que de garder des archives physiques ?
Ça présente d'autres risques. C'est comme le papier, c'est affaire de risque. Les services départementaux d'archives, les services communaux d'archives constitués ont des magasins d'archives suffisamment bien conçus pour ne pas laisser les choses brûler, moisir. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements et des problèmes, bien évidemment. Avec le numérique, il y a des risques. Ce sont d'autres risques et il faut s'y préparer. Comme on le fait avec le papier. Le numérique ne nous apportera pas nécessairement plus de sécurité, encore que, avec le numérique, on peut répliquer, alors qu'avec le papier, on le faisait difficilement, bien évidemment. Voilà, on n'a jamais photocopié 30 km d'archives.
C'est vrai. Voilà. Oui. Et donc, on parlait de cette valorisation, la communication. On va y arriver, puisque Linda Péton est là, elle est médiatrice. Je ne sais pas combien vous avez de médiateurs, d'ailleurs. Vous êtes seule, Linda, aux archives, non ?
Non, pas du tout. Dans le secteur de l'action culturelle et éducative, il y a moi, il y a Laure Velchen, il y a Fabrice Michelet. Donc on est trois personnes et après d'autres personnes des autres secteurs peuvent venir nous appuyer dans nos missions.
Et alors j'ai l'impression que le fait d'avoir une saison culturelle pour des archives, c'est assez récent, mais peut-être me trompais-je.
Pour les archives départementales du Finistère, oui, on est sur notre quatrième saison culturelle. Donc oui, c'est très récent et à chaque fois on apporte un nouveau thème, une nouvelle thématique avec des nouveautés, des conférences, des temps forts avec des documents qu'on apporte aussi auprès des sur les territoires, comme le sortaient les archives. Donc une proposition variée et récente.
Alors justement, allons-y pour cette saison culturelle qui est déjà bien entamée puisque nous sommes en 2025. En 2024, vous avez déjà mené des actions. Bon, il y a quand même un événement qui fait un peu le fil rouge, hein, c'est ça ?
Complètement. Donc la saison culturelle, ça suit en fait une saison scolaire. On va de septembre à juin. Donc effectivement, on a fait toute la fin de l'année 2024 et là, on va jusqu'au mois de mai 2025 sur une saison culturelle autour du thème du 80e anniversaire de la libération et de la victoire.
Évidemment. Et donc, vous avez, qu'est-ce que vous avez prévu ?
Alors, on a prévu un certain nombre de choses. Donc, on va laisser ce qui est dans le passé, mais on va voir ce qui reste du mois de mars au mois de mai. C'est un mélange de rencontres avec des conférenciers. On a aussi des sortez les archives, donc des enquêtes qu'on va mener sur les territoires. On a des visites thématiques, donc on va venir visiter les coulisses des archives sur une thématique donnée. Donc demain, on va faire une visite des coulisses sur l'abri Sadi Carnot.
Mais ça se passe aux archives.
Ça se passe
Quimper.
Aux archives et on va ponctuer de documents qui vont amener à comprendre l'abri Sadi Carnot, la catastrophe de l'abri Sadi Carnot et de découvrir nos métiers dans nos 30 km d'archives.
Et alors, quand partons de la source, justement, vous faites une opération de collecte. Donc, vous lancez un appel déjà au public et puis vous y allez, quoi.
Voilà, c'est le président de la République, en mars du coup, de l'année dernière, a annoncé une collecte nationale d'archives privées autour de la Seconde Guerre mondiale. Et on est parti, effectivement, sur cette collecte privée avec, depuis le début de l'année, un temps fort qu'on a mis en ligne qui s'appelle le mur de la mémoire. Donc, c'est-à-dire qu'on demande aux usagers s'ils ont chez eux une carte de combattant volontaire de la résistance, puisque nous, aux archives, on a à peu près 7000 dossiers de combattants volontaires de la résistance, mais nous n'avons pas ces petites cartes, comme on appelle les petites cartes vertes, où il y a l'identité et surtout une photo d'identité de la personne.
Ils avaient tous une carte d'identité comme ça ?
Ils avaient une carte, voilà.
Le dossier était établi dès le début ?
Oui, dès le début. Oui, ils ont une carte qui est remise, mais on n'a pas de copie dans le dossier. Et donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver ces cartes. Et nous, aux archives, on se lance dans la numérisation de ces dossiers. Comme ça, on arrive aujourd'hui on est à 52 cartes sur le site internet des archives. Donc autant de parcours de résistants et de résistantes à découvrir sur notre site internet.
C'est des gens du Finistère, je suppose.
Et on est sur des Finistériens, effectivement. Quelquefois, ils sont nés à côté, dans le département voisin.
Ciel, quelle horreur.
Mais la demande vient bien de l'office départemental du Finistère, oui.
Eh oui. Et donc, qui a attribué ces cartes ? Juste une petite question qui me vient comme ça.
C'est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ah oui.
Donc, ce qu'on appelle l'ONAC.
Ah, mais ça a été attribué après la guerre, alors.
Ah
oui, c'était pas pendant la guerre qu'on leur donnait. Ça aurait été un peu dangereux, quand même.
Complètement. Non, c'est après la guerre pour établir les services faits de guerre pour, montrer le temps que les personnes ont fait la guerre, ont été dans un réseau, dans un bataillon ou dans un maquis. Et une fois validé, on peut avoir du coup cette carte de combattant volontaire de la résistance. Mais il existe d'autres cartes, hein. Il y a aussi les cartes de combattant, il y a les cartes d'internés et déportés. Voilà, il y a différentes cartes qui ont été et différents dossiers qui ont été créés après guerre.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a la photo, donc ça humanise beaucoup.
Voilà,
hein,
c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut comprendre le cursus de la personne à travers le dossier, mais la carte permet de mettre le visage sur cette personne. Et voilà, ce mur de la mémoire est vraiment quelque chose de super intéressant qu'on a mis en place. Donc là, en même pas un mois et demi, on arrive quand même à collecter à peu près une cinquantaine de cartes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on va venir aussi dans les territoires. Donc là, mercredi...
Oui, vous faites des permanences, alors. Oui,
oui
c'est ça.
On pourrait dire des permanences. On va sur le territoire et mercredi, on fait le Sortez les archives à Rospordun. Donc, on va amener un certain nombre de documents des archives départementales à Rospordun. Et on vient pour aussi parler de la collecte. Donc, si les personnes ont des cartes, des documents, des attestations de forces françaises de l'intérieur, ou même des objets comme les médailles, eh bien, ils sont les bienvenus pour partager un temps avec nous, pour nous expliquer la petite histoire dans la grande histoire. Et puis, on pourra procéder en direct à la numérisation.
Ah oui.
Comme ça, on récupère la version numérique.
Et la personne garde la carte papier.
Voilà, parce qu'on connaît bien l'attachement et la valeur sentimentale de l'objet. C'est toujours délicat de se défaire de la carte de son ancêtre. Alors, on propose ce don numérique et la personne nous autorise à réutiliser la version numérique. Elle repart aussi avec une version numérique et repart avec ses documents.
Et vous faites souvent comme ça des enquêtes, oui, enfin des collectes de terrain
C'est très très récent que le directeur des archives a autorisé qu'on puisse faire un sortez les archives, donc d'amener les archives un peu hors les murs et de procéder, de doubler en fait cette mission avec la collecte. Donc là, on va quand même... on va à Rospordun, mais après on va aller à Gouesnard, on va aller aussi à Corée. Donc
le département du Finistère, ouais, logique. Et donc il y a aussi une exposition qu'on peut. Alors là, le troisième temps d'une exposition qui a déjà eu deux volets autour de la libération, hein, pareil. Donc là c'est vraiment justement la libération, c'est ça qu'on va pouvoir découvrir à partir d'avril.
Là jusqu'à la fin mars, donc il reste encore une quinzaine de jours, on peut découvrir le temps 2 de l'exposition Amis entendus, qui est consacré à la résistance. Donc on voit les documents d'archives du début de la résistance jusqu'à vraiment la création en réseau. Puis après, on peut voir également les différents faits de sabotage et on peut voir un peu les représailles et les dossiers de combattants volontaires de la résistance. Et le temps 3, qui sera à partir d'avril jusqu'à la fin juin, on va voir la libération. Donc on va essayer de créer quelque chose de joyeux autour de cette libération du Finistère, du territoire finistérien.
Donc ça sera à voir aussi aux archives départementales. Voilà. Et il y a un focus sur les femmes dans la résistance avec une conférence.
Alors là, c'est tout le mois de mars. On a voulu, à partir du 8 mars, qui était donc la Journée internationale des droits de la femme, on a vraiment fait un temps fort autour de la femme avec une exposition donc, qui est prêtée par la Fondation de la Résistance qui s'appelle « Les femmes dans la résistance » qui est à voir jusqu'au 28 mars. Et adossé à ça, on a une conférence ce samedi. Donc il reste encore quelques places, 5 places.
Oui, parce que c'est gratuit, mais c'est toujours sur réservation.
C'est toujours sur réservation, ouais, ouais. Puisque donc, c'est aux archives et c'est dans l'amphithéâtre des archives. Donc on a des places limitées. Donc c'est sur inscription, c'est gratuit et on recevra avec grand plaisir Isabelle Le Boulanger qui nous parlera des femmes dans la résistance.
Et qui dédicacera aussi.
Et à la suite, effectivement, il y aura une dédicace de ces différents ouvrages.
Et il y aura même un week-end consacré à la libération, les 16 et 17 mai. Là.
Ça va être la grande fête. Effectivement, pour terminer notre saison culturelle, on aura un gros temps fort le vendredi et le samedi. Donc, le 16 mai, on a une rencontre animée par le réseau des archives. Donc, quand on parle de réseau des archives, c'est-à-dire que on va amener les services des municipaux. Donc, on va avoir les archives municipales de Brest, de Quimper. On va avoir le service historique de la Défense également, qui sont donc présents sur le territoire finistérien, qui vont venir nous parler des fonds qu'ils conservent autour de la Seconde Guerre mondiale. Comment ça s'est passé aussi, la grande collecte pour eux? Quels sont un peu les documents emblématiques qu'ils ont pu collecter? Donc là, ça va être vraiment un beau temps où tout le monde va pouvoir partager. Donc ça va apporter des éléments pour nous en tant qu'archivistes, mais aussi pour le public. Et le samedi, on va faire une conférence. Donc c'est Christian Boujard qui va faire une conférence sur la Bretagne dans la Seconde Guerre mondiale. Et à l'issue de ça, on fera une visite des coulisses.
Et ça sera les 16 et 17 mai. Et pour le reste, on va sur le site internet des archives départementales du Finistère. Merci beaucoup à tous les deux. Vous reviendrez nous parler des autres sujets comme le fonds Caudal, par exemple.
Avec grand plaisir.
Avec plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.